Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des rois. C'est le passage qui est proposé à notre lecture par la Ligue pour la lecture de la Bible. Deuxième livre des rois, je lirai deux versets au chapitre 6 et ensuite le chapitre 7. Deuxième livre des rois, chapitre 6, verset 24. Ben-Hadad, roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait, au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. C'est difficile d'apprécier la valeur de l'argent parce que ça fluctue suivant les époques. C'est plus cher qu'un cheval. Et un cheval, ce sont seulement les gens riches qui ont des chevaux. Donc, une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de fiente de pigeon, 5 pièces d'argent. Je saute quelques éléments du récit sur lesquels nous reviendrons et j'en arrive au chapitre 7. Élisée prit la parole et dit « Écoutez ce que dit le Seigneur. » Voici ce que déclare le Seigneur. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour une pièce d'argent. L'aide de camp qui accompagnait le roi répondit à l'homme de Dieu, même si le Seigneur faisait des fenêtres dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ? Élisée lui répondit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Près de la porte de Samarie se trouvaient 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons. La famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et les Syriens s'étaient dit, le roi d'Israël a enrôlé tous les rois des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. Ainsi, ils se levèrent, s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, et laissant le camp dans l'état où il était. Les hommes, les lépreux, arrivèrent donc dans le camp, ils entrèrent dans une tente, ils mangèrent, ils burent, ils emportèrent, trouvèrent de l'argent, de l'or, des vêtements, ils emportèrent pour les cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, ils prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent le cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous et si nous attendons qu'il fasse jour pour la transmettre, notre faute va nous retomber dessus. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. Ils retournèrent à la ville, ils appelèrent les sentinelles et ils leur racontèrent, nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens et voici, il n'y a plus personne. On n'entend plus une seule voix humaine. Il y a les chevaux attachés, les ânes attachés et les tentes sont restées dans l'état où elles étaient. Les sentinelles de la porte appelèrent quelqu'un de l'intérieur pour transmettre la nouvelle au palais royal. Le roi se leva au milieu de la nuit et il dit à ses ministres « Moi, je vais vous dire ce que les Syriens sont en train de manigancer contre nous. Ils savent que nous sommes affamés. Ils ont quitté le camp pour se cacher dans les environs et ils se disent « Les assaillants, les assiégés vont sortir de la ville, alors nous les saisirons et puis nous pénétrerons dans la ville. » L'un des ministres proposa la chose suivante. On pourrait peut-être quand même envoyer quelques hommes et les 5 chevaux qui nous restent n'avons rien à y perdre, car ils connaîtront le même sort que toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville. Ils vont mourir de faim. Envoyons-les donc et nous verrons bien. On équipa donc 2 chars attelés de chevaux, et le roi les envoya à la recherche de l'armée syrienne en leur disant « Allez voir ce qui se passe ». La patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Toute la route était jonchée de vêtements, de matériel que les Syriens avaient abandonné dans leur précipitation, et ils revinrent faire leur rapport au roi. Alors le peuple de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller. C'est ainsi que l'on put acheter 10 kilos de fleurs de farine pour un sicle ou 20 kilos d'orge pour une pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Le roi avait chargé son aide de camp qui l'accompagnait de surveiller la porte de la ville. Et celui-ci fut piétiné par la foule et il mourut, comme l'homme de Dieu l'avait annoncé au moment où le roi était venu le trouver. Il avait dit, « Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on pourra acheter 20 kilos d'orge pour une pièce d'argent, 10 kilos de farine de blé pour une pièce d'argent. » Et l'aide du camp lui avait répliqué, « Même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, pareille chose pourrait-elle arriver ?» Et Élisée lui avait répondu, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est bien en effet ce qui lui arriva. La foule le piétina à la porte de la ville et il mourut. Pourquoi nous plonger dans les récits d'une époque si éloignée de la nôtre et si différente de la nôtre, est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui assez de difficultés, assez de drames dans notre temps, ou de drames dans notre propre vie, ou dans celle de ceux qui nous sont chers, pour aller nous perdre dans les malheurs d'un autre temps? Est-ce que la Bible n'a pas mieux à nous proposer que ça? Alors certes, la Bible n'a pas que cela à nous proposer. Heureusement, il y a aussi les psaumes et bien d'autres passages de la Bible. Mais la Bible nous impose aussi ce parcours dans cette histoire troublée des rois d'Israël. Et ce n'est certainement pas pour rien que ce parcours nous est proposé. Si Dieu l'a prévu, il doit bien être utile à quelque chose. Et je vous propose ce matin d'en tirer 3 bonnes nouvelles. Et une quatrième qui est à la fois bonne et mauvaise. Ça dépend comment on la prend. Première bonne nouvelle. C'est dans le monde réel que Dieu agit. Non pas dans un monde idéal. C'est dans ce monde réel que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Un monde où un peuple peut être réduit à l'état d'esclavage. Un monde où ce peuple peut être menacé d'extermination, un monde où un roi peut donner cet ordre terrible. Si vous voyez un bébé des Hébreux, si c'est un garçon, jetez-le dans le fleuve. C'est dans le monde réel que se déroule l'histoire de la Bible. Un monde où dans ce monde réel que se déroule aussi l'histoire de ce peuple libéré par Dieu, avec des ennemis, avec des guerres, avec des bons rois et surtout de mauvais rois, avec de bons sujets et beaucoup de mauvais sujets. C'est un monde où il y a des sièges, où il y a des lépreux qui sont bannis de la société. Alors vous êtes malade, il n'y a aucun traitement. Aucun traitement. Et en plus de ça, on vous met à l'écart. Vous devez être vêtu de manière à être vu de loin, reconnu de loin. Et en plus de ça, quand vous risquez de rencontrer quelqu'un, quand vous vous approchez de quelqu'un, vous devez lui dire « impur, impur ». Voilà pour les lépreux. Et les sièges. Les sièges, c'est une terrifiante partie de poker entre celui qui attaque et celui qui est attaqué. Qui va céder ? Alors, dans la ville assiégée, on commence à mourir de faim. Alors on nourrit probablement les plus valides, les soldats, mais les autres. Lors de ce siège, dans les versets qui précèdent, une histoire terrifiante est rapportée. Une femme vient se plaindre au roi. Ma voisine m'avait proposé hier, partageons-nous aujourd'hui ton fils, et demain, nous mangerons le mien. Hier, nous avons mangé, nous avons cuit et mangé mon fils, et aujourd'hui, elle ne veut pas donner le sien. Faut-il condamner ces mères indignes ? Mais est-ce que nous savons vraiment ce qu'est la famine ? C'est dans ce monde-là que Dieu agit. Et cette bonne nouvelle, nous devons toujours à nouveau l'entendre et nous devons toujours à nouveau en être bien persuadés et consolés. Parce que, bon, nous vivons dans un cadre qui est largement protégé et nous risquons de limiter la compétence de Dieu à la protection de ce cadre de vie. Et quand nous voyons ce cadre de vie menacé par la violence, par les attentats, par les assassinats, nous ne savons plus que penser. Mais de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous confirme que c'est bien dans ce monde-là que Dieu agit. Toute la Bible, pas seulement le livre des rois, même les évangiles. Alors, les évangiles, nous retenons peut-être une image assez idyllique. Nous voyons les rives du lac de Galilée, les barques de pêcheurs, les miracles de Jésus. Mais le monde dans lequel se déroule le ministère de Jésus, c'est un monde terriblement violent. Un monde où une jeune et gracieuse danseuse sert à sa mère, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. C'est un monde où les bébés de Bethléem sont massacrés, un monde où Jésus est arrêté, condamné, crucifié, un monde où Étienne est lapidé, où Jacques est décapité. Il vaut la peine de prendre conscience avec la Bible de cette dureté du monde pour comprendre que la Bible ne nous trompe pas, que le message qui nous est adressé, ça n'est pas un petit gadget pour un monde facile. C'est vraiment dans ce monde-ci que Dieu est à l'œuvre. Et plus les récits bibliques évoquent des situations difficiles, même insoutenables, et plus nous est confirmé que c'est bien dans ce monde réel que Dieu est là, que Dieu agit. Deuxième bonne nouvelle, dans ce monde tel qu'il est, Dieu peut délivrer. Ah, c'est une délivrance extraordinaire, miraculeuse, que nous rapporte ce récit. Du jour au lendemain, le siège est levé, sans négociation, sans intervention extérieure. Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. et ils ont été pris de panique, laissant derrière eux leurs provisions, leur équipement. Et l'effet miraculeux est renforcé par le fait que la levée du siège a été annoncée la veille par le prophète Élisée, qui ne pouvait rien en savoir, sinon averti par Dieu. Cette bonne nouvelle que Dieu peut délivrer, il faut quand même un certain discernement pour la recevoir et pour la comprendre. Cette bonne nouvelle, vous avez peut-être remarqué que je l'ai formulée d'une manière très prudente et probablement trop prudente en disant « Dieu peut délivrer ». Cette capacité de délivrer que Dieu possède, ce n'est pas seulement une capacité théorique, c'est une capacité dont il donne la preuve. Il exerce cette capacité. Il a délivré le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Il a délivré Samarie, ici, qui était assiégée par les Syriens. Il a délivré l'apôtre Pierre qui était en prison. Dieu exerce des délivrances dans ce monde et il invite le croyant, il nous invite à lui faire confiance, il nous invite à lui demander d'intervenir. Mais il faut reconnaître que ces délivrances miraculeuses, paraissent quand même plutôt exceptionnelles. Voyez par exemple les chrétiens réunis en prière pour Pierre. Pierre est en prison et les chrétiens se sont réunis pour prier pour lui. Qu'est-ce qu'ils demandent dans leur prière? Le texte ne nous le dit pas. Est-ce qu'ils demandent que Dieu donne à Pierre la force, la persévérance dans l'épreuve qu'il traverse? Est-ce qu'ils lui demandent la force pour pouvoir témoigner dans la situation où il se trouve? Probablement, mais il lui demande certainement aussi de libérer Pierre de la prison où il se trouve. Mais que se passe-t-il lorsque Pierre, libéré, vient frapper à la porte de la réunion de prière? La servante est tellement joyeuse qu'elle va annoncer aux membres de la réunion que Pierre est là et qu'il frappe. Ils lui disent « Mais tu es folle !» Et d'autres disent « Ah, mais ça doit être son ange, probablement. » Et puis, ils commencent à discuter pour savoir vraiment ce qui se passe. Si bien que Pierre commence à s'impatienter. Est-ce que nous allons reprocher à ces gens de manquer de foi? Oui, on pourrait le dire. Mais quelques jours auparavant, Jacques avait été arrêté. Et Jacques avait été exécuté. Et on avait certainement prié pour Jacques aussi. Alors ces gens qui priaient, devaient-ils croire que Pierre allait à coup sûr être libéré alors que Jacques, lui, ne l'avait pas été? Le miracle surprend toujours. Ce ne serait pas un miracle s'il devait arriver à tous les coups. Dans le récit qui nous occupe, on peut se demander pourquoi Dieu est intervenu pour délivrer Samarie. Parce que Samarie est gouvernée par un mauvais roi. Lorsque Élisée parle de lui, il dit « ce fils d'assassin ». Et lorsque ce roi entend la plainte de la femme dont on a mangé le fils, sa réaction, c'est une réaction contre Élisée. Et il jure que la tête d'Élisée ne va pas rester longtemps sur son corps. Pourquoi Dieu a-t-il délivré Samarie? Est-ce que ce serait pour sauver la tête d'Élisée? Il me semble quand même peu probable, parce que Dieu avait bien d'autres moyens pour protéger son prophète. Je crois qu'il nous faut certainement y voir une marque de la compassion de Dieu. Une compassion qui peut s'exercer même envers un peuple infidèle, un peuple infidèle gouverné par un mauvais roi. Dieu reste libre de ses décisions, reste libre de ses délivrances. Il a délivré Pierre, il n'avait pas délivré Jacques. Il a délivré Samarie. Quelle conclusion allons-nous en tirer? Dieu peut délivrer. Il nous invite à le prier. Il délivre à l'occasion, dans le temps présent. Et c'est à la fin de l'histoire qu'il accorde et qu'il accordera toujours une délivrance complète. À la fin de l'histoire de chaque croyant qu'il recueille auprès de lui à l'heure de sa mort et à la fin de l'histoire de notre monde, lorsque le Christ établira son règne. Voilà comment nous pouvons, avec foi et reconnaissance, recevoir cette seconde bonne nouvelle. Dieu peut délivrer. Troisième bonne nouvelle, il y a dans ce monde des gens qui ont une bonne nouvelle à communiquer. Et dans ce récit, ce sont les quatre lépreux qui ont trouvé le camp abandonné et qui ont commencé à se servir. En nourriture d'abord, puis en argent, en or. Et instinctivement, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais au bout d'un certain temps, nous voyons que leur conscience les travaille. Et craignant que Dieu ne les punisse pour leur égoïsme, ils transmettent la bonne nouvelle à la ville assiégée. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont une bonne nouvelle à transmettre. Et ces gens, c'est nous. Cette bonne nouvelle que nous avons à transmettre, ça n'est pas que Daesh sera vaincu. Bon, certainement, il le sera un jour ou l'autre. Mais qu'y aura-t-il après ? Le nazisme a été vaincu, il y a eu le stalinisme. Le stalinisme a été vaincu, il y a Al-Qaïda et Daesh. Et c'est souvent par un autre méchant que le méchant est vaincu. Le livre d'Habacuc nous y a rendu attentifs ces derniers dimanches. La bonne nouvelle, ce n'est pas que Dieu va sauver notre vivre ensemble, va sauver la République française, va sauver la démocratie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui a la vie éternelle. Voilà ce que nous savons. Voilà ce qui doit nourrir notre âme dans ce monde de famine spirituelle. Voilà le trésor de grand prix que nous avons découvert. Et ce trésor, nous le savons bien, il n'est pas pour nous seuls. À nous de le transmettre. Et c'est là ce qui se joue dans le monde aujourd'hui. Nous le savons. Et nous sommes les seuls à le savoir. Alors nous prions pour les personnes touchées par les attentats. Nous prions pour les autorités. Oui. Mais voyez comme l'apôtre Paul, présente la chose dans sa première lettre à Timothée. Priez pour les rois, etc., afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il ajoute, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà la bonne nouvelle dont nous sommes dépositaires. La dernière nouvelle, à la fois bonne et mauvaise, il faut croire pour être sauvé. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais dans le récit que nous avons lu, cette bonne nouvelle est illustrée par un exemple tragique. Celui qui n'a pas cru à l'annonce de la délivrance n'en jouit pas. Il meurt écrasé par la foule qui se presse pour sortir de la ville. Il avait reçu mission peut-être de faire un peu l'ordre, d'empêcher les gens peut-être de sortir trop tôt ou de sortir en bon ordre, et il est écrasé. Et c'est précisément la réalisation de l'événement auquel il ne croyait pas qui le tue. C'est l'extraordinaire effervescence qui est causée par la foule, de l'effervescence causée par l'événement, c'est ça qui précipite sa perte. Il est tué précisément par la chose qu'il n'avait pas cru possible. Alors, par rapport à l'événement lui-même, la fin du siège, cette mort accidentelle peut paraître un simple détail. C'est un dommage collatéral de la délivrance. Mais vous aurez probablement remarqué l'importance que lui donne le récit. Tout le récit est encadré par l'évocation de cet officier, son incrédulité narquoise au début, quand le Seigneur ferait des fenêtres au ciel, est-ce qu'une telle chose pourrait arriver ? Et par la fin tragique qui conclut tout le récit. Et on insiste lourdement en rappelant ces paroles et en rappelant la prédiction du prophète. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Cette nécessité de croire pour être sauvé, elle est constamment rappelée dans le Nouveau Testament. Je reprends le texte que j'ai évoqué précédemment. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui a la vie éternelle. Et la chose est bien précisée par la suite pour éviter toute ambiguïté. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En mettant en évidence ce cas particulier, le récit du Livre des Rois nous interpelle. Quel sort tragique ! Et c'est aussi ce que fait Jésus avec la parabole des noces, avec le personnage qui est entré dans la salle du festin sans avoir revêtu l'habit de noces. Il est jeté dehors dans le noir, pieds et poings liés. Le vêtement de noces, c'est la foi. Alors quelqu'un dira peut-être, la foi, moi j'aimerais bien l'avoir, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Ça ne se commande pas. Certes, mais il faut, je crois, bien comprendre deux choses. La première, c'est que la foi est nécessaire. Elle est vitale, la foi, pour être sauvé. Ce n'est pas une simple option. On pourrait dire, oh, je l'ai ou je ne l'ai pas. J'ai une voiture, je n'ai peut-être pas des jantes en alu, mais enfin j'ai une voiture. Non, c'est indispensable pour être sauvé. La seconde chose, c'est que la foi, nous ne devons pas seulement la rechercher comme un sentiment qui va nous tomber dessus, une impression, un déclic. La foi, c'est aussi un contenu auquel on adhère. Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour le pardon de nos fautes. Il est ressuscité, il nous ressuscitera avec lui. Croire cela, c'est avoir la foi. Alors que Dieu nous fortifie, nous encourage, nous console, oriente nos pensées, nos sentiments, par ces quatre bonnes nouvelles que nous avons pu nous rappeler ce matin. C'est dans le monde où nous vivons, si dur soit-il, que Dieu est présent et qu'il agit. Dans ce monde, Dieu peut délivrer et il délivre. Dans ce monde, nous avons une bonne nouvelle à transmettre. Et pour être sauvé, il faut croire. Amen.